Bonjour, au micro Idrissa Seloudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont été la cible lundi de deux attaques qui ont fait au moins 6 morts, dont 3 terroristes dans le nord, proche de la frontière avec le Burkina Faso, en proie aux actions djihadistes selon l'armée ivoirienne. Palma, petit port du nord du Mozambique, tombé aux mains de commandos djihadistes après une attaque revendiquée lundi par le groupe État islamique, s'est transformé en ville fantôme tandis que des milliers de civils continuaient à fuir par tous les moyens. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Dia. Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi par l'explosion d'une bombe dans une rue de la capitale somalienne Mogadiscio, ont annoncé un responsable local et des témoins. La Cour pénale internationale rendra ce mardi son arrêt dans le procès en appel de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, condamné en 2019 à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Par ailleurs, à l'ouverture de 3 jours d'assises pour la paix à Kinshasa, les autorités ont invité des Congolais Tutsi aux lointaines origines rwandaises et d'autres communautés congolaises à un dialogue sincère pour mettre fin au conflit qui les oppose dans la région des hauts plateaux du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, entre février 2019 et juin 2020, 128 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre milices Banyamulenge, les Congolais Tutsi, et milices d'autres communautés, Bafuliro, Babembe, Banyundu. Les violences ont déplacé 110 000 civils. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui est âgé de 78 ans, partira mardi matin à Londres pour une visite médicale de routine, a fait savoir lundi son porte-parole dans un court communiqué, alors que la santé de M. Buhari inquiète. Il reviendra au pays durant la deuxième semaine d'avril, est-il indiqué. Un an après sa première élection, entre mai 2016 et la mi-avril 2017, M. Buhari avait séjourné à plusieurs reprises à Londres, où il avait reçu des soins pour une maladie dont la nature n'a jamais été révélée. Des navires ancrés en Méditerranée depuis près d'une semaine ont entamé lundi soir la traversée du canal de Suez, débloqué après la remise à flot de l'Evergreen. Claire Morin-Gibourg nous en parlera. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination aux États-Unis tout en exhortant à la vigilance. La guerre contre le COVID-19 est loin d'être gagnée, a-t-il dit, en demandant aux États du pays de suspendre le déconfinement, confirmant la spectaculaire montée en puissance des dernières semaines. M. Biden a promis que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril. Les experts internationaux récemment dépêchés en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19 présentent mardi le détail de leurs conclusions qui privilégient la transmission via un animal intermédiaire sans pouvoir l'identifier à ce stade. Les dirigeants d'une vingtaine de pays, le président du Conseil européen et le patron de l'OMS ont, dans une tribune publiée hier soir dans Le Monde, appelé à élaborer un traité international sur les pandémies pour affronter les futures crises sanitaires. Ici aux États-Unis, les jurés au procès du meurtre de George Floyd ont été confrontés lundi, dès le premier jour des débats de fond, à une vidéo quasi insoutenable de l'agonie de l'Africain-Américain, à deux versions irréconciliables du drame et un témoignage troublant. Plus de 500 civils, dont de nombreux étudiants et des adolescents, ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'état militaire du 1er février en Birmanie, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. La suite de nos informations. Les États-Unis condamnent l'attaque revendiquée par le groupe État islamique contre la ville portuaire de Palma au Mozambique et sont déterminés à coopérer avec Maputo pour lutter contre les djihadistes. Déclaration faite lundi par le porte-parole du Pentagone. Abdourahman Dia.
John Kirby a souligné que les attaques des djihadistes témoignent d'une absence totale de respect pour le bien-être et la sécurité de la population locale qui souffre terriblement des tactiques brutales et aveugles des terroristes. Nous restons déterminés à coopérer avec le gouvernement du Mozambique en matière d'antiterrorisme et de lutte contre l'extrémisme violent et pour vaincre le groupe État islamique, a déclaré le porte-parole du ministère américain de la Défense. Le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique a justement annoncé à la mi-mars avoir commencé un programme de formation de 2 mois des forces spéciales du Mozambique pour empêcher la propagation du terrorisme. Le groupe État islamique a affirmé contrôler la ville et a revendiqué l'attaque survenue seulement à une dizaine de kilomètres d'un méga-projet gazier de plusieurs milliards de dollars. Selon le gouvernement mozambicain, dimanche soir, l'attaque d'ampleur à Palma a fait des dizaines de morts et au moins une centaine de personnes sont toujours portée disparue.
Au Zimbabwe, l'ONU a annoncé lundi que des restrictions visant à limiter la propagation du coronavirus ont aggravé la faim dans les zones urbaines du pays. Au moins 2,4 millions de personnes peinent désormais à satisfaire leurs besoins de base en alimentation. Mohamed Humfa.
Pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, les autorités zimbabwéennes ont imposé une série de restrictions depuis le début de la pandémie, dont la plupart n'ont été levées qu'en mars cette année. Des mesures qui ont porté un coup terrible aux populations urbaines, lesquelles comptent de nombreux travailleurs journaliers vivant au jour le jour, constate le Programme alimentaire mondial. En outre, les restrictions de déplacement ont empêché ces travailleurs, ne pouvant trouver un emploi en ville, d'aller occuper des tâches saisonnières à la campagne, souligne le PAM. Également, une importante hausse des prix liée à l'inflation galopante est venue encore aggraver les choses, rendant certains biens de première nécessité inabordables pour de nombreux Zimbabwéens. Le niveau de vie a donc considérablement chuté en 2020 au sein des populations urbaines déjà pauvres. 83% des ménages urbains vivent désormais avec moins que le minimum requis pour acheter les produits alimentaires de base, tels la farine de maïs, le sel et l'huile de cuisson contre 76,8% en 2019, estime le PAM. 42% des ménages urbains seront incapables de satisfaire leurs besoins en céréales cette année, soit 30% de plus qu'en 2019, ajoute l'agence onusienne.
Des navires ancrés en Méditerranée depuis près d'une semaine ont entamé hier soir la traversée du canal de Suez. Cette voie cruciale pour le commerce maritime a été débloquée après la remise à flot du porte-conteneur géant Lever Given qui obstruait cette voie. Claire Morin-Gibourg.
Les premiers navires ont commencé à circuler dans le canal autour de 18h heure locale, a annoncé l'amiral Osama Rabi, président de l'autorité du canal de Suez, qui a précisé que l'objectif était de faire passer 113 navires dans le canal d'ici 8h ce matin. Au total, plus de 400 navires chargés de marchandises, de pétrole ou encore de bétail étaient restés bloqués aux deux extrémités du canal et dans le grand lac Amer, un lac salé au milieu de celui-ci. L'immobilisation de ces bateaux a entraîné chaque jour des milliards de dollars de pertes. La reprise du trafic hier lundi a levé les inquiétudes qui pesaient depuis mardi dernier sur le commerce international, dont 10% transitent par le canal. Cette véritable saga avait aussi provoqué une flambée passagère des prix du pétrole en fin de semaine. L'Ever Given est désormais ancré dans le Grand Lac Amer, à quelques dizaines de kilomètres au nord du lieu de son échouement pour y être inspecté. Une enquête est en cours. Selon les autorités du canal, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal, emprunté par près de 19 000 navires en 2020.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
Le Gabon a lancé la phase pilote du système de traçabilité de son bois, baptisé MINEF. Ce système permettra à l'administration forestière, douanière et fiscale de disposer de données fiables sur l'acheminement des produits bois en temps réel depuis la forêt jusqu'à leur destination, qu'il s'agisse du port d'exportation ou d'une usine de transformation. Ce système devrait permettre de lutter contre l'exploitation illégale des ressources forestières et de veiller à ce que les produits à base de bois gabonais soient légaux, respectueux de l'environnement et contribuent plus significativement à la croissance économique et à la création d'emplois. Représentant 60% du PIB hors hydrocarbures, le secteur forestier est l'un des piliers de l'économie gabonaise. Au Rwanda, le gouvernement va investir 10 millions de dollars dans l'élevage, conjointement avec l'ONG américaine Eifer International, dans le cadre du partenariat en faveur des marchés du petit élevage résilient et inclusif, un programme d'une durée de 5 ans. Cette enveloppe vise à soutenir 23 400 ménages ruraux pauvres en situation d'insécurité alimentaire dans 15 districts répartis dans les provinces du Nord, du Sud et de l'Ouest. L'émetteur de cartes de paiement Visa va accepter l'USD Coin, une crypto-monnaie dont le cours est adossé à une devise pour régler les transactions de certaines de ses cartes. Cette annonce a entraîné un bond du cours du Bitcoin.
Les sports à présent avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le Malawi a battu l'Ouganda 1-0 à Blantyre et s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueur grâce à un but de Richard Mboulou à la 15e minute, le Malawi double son adversaire du jour pour prendre la deuxième place du groupe B. Ce sera la troisième participation de l'histoire pour les Flames après 1984 et 2010. Le premier de ce groupe est le Burkina Faso qui a défait au stade du 4 août de Ouagadougou, le Soudan du Sud, 1-0, un but de Bertrand Traoré. Dans le groupe D, l'Angola a écrasé le Gabon 2-0 et les Léopards de la RDC, quoique déjà éliminés, ont su se rattraper en battant 1-0 la Gambie. La Gambie déjà qualifiée avec le Gabon dans ce groupe. Dans le groupe G, l'Égypte a fait voler en éclats les Comores 4-0 avec un doublé de Mo Salah. Lors d'un match dépourvu d'enjeu, le Togo a eu moins de chances et s'est fait battre par le Kenya à Lomé, 2-1. Dans ce groupe, l'Égypte et les Comores sont qualifiés. Il reste ce mardi 5 places à distribuer pour la fin de la 6e et dernière journée de qualification pour l'édition 2021 de la CAN. Deux se disputeront directement lors de Sierra Leone, Bénin et Guinée-Bissau au Congo. Les deux pays recevant ont besoin d'une victoire pour se qualifier devant leur adversaire. Les trois autres places se joueront indirectement. D'abord, la Mauritanie doit obtenir en Centrafrique un meilleur résultat que le Burundi, qui la devance dans les confrontations directes ou alors compter sur une défaite du Burundi. Un point devrait suffire au Cap-Vert sur le terrain du Mozambique pour se qualifier aux dépens du Rwanda. Enfin, l'Éthiopie n'a besoin que d'un point en Côte d'Ivoire pour conserver son avance sur Madagascar. Et puis toujours en football, en RDC, Constant Omari, président de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football, annonce qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Plus de détails avec Valdo Simoyamba à Kinshasa.
C'est au cours d'une interview accordée à l'émission Talents d'Afrique que Constant Omari, président de la Fédération Congolaise de Football Association, annonce ne pas être candidat à sa propre succession aux prochaines élections de la FECOFA.
Je veux être très clair, je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la Fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont les ambitions de pouvoir continuer.
Les manques de la politique sportive nationale en RDC seraient l'un des éléments à la base de sa décision.
Chacun doit se remettre en cause. Les joueurs, les staffs techniques, la fédération, le gouvernement, tout le monde. Il n'y a pas de politique sportive nationale. C'est ça la réalité.
Les présidents de la FECOFA, dont les mandats courent encore jusqu'en décembre 2021, craint les pires après lui.
Mais mon seul regret, c'est que si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils peuvent avoir, ils ne vont pas progresser, peut-être vont plus sombrer encore.
Il est donc évident que la succession de Constant Omari à la tête de la FECOFA vient d'être officiellement ouverte et ce, après 18 années de gestion. Et Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, remis au président Emmanuel Macron et publié vendredi, dit que la lecture des autorités françaises d'alors adoptait l'idéologie coloniale de la classification ethnique. Mais rien ne démontre que Paris s'en soit rendu complice. Éric Manirakinda a joint à Paris le président de la commission d'historiens chargée de faire la lumière sur l'engagement de la France au Rwanda, Vincent Duclerc.
Ce qu'on a découvert, c'est des responsabilités accablantes de la France dans cette catastrophe qui survient au Rwanda, c'est-à-dire un génocide perpétré contre les Tutsis, qui aurait pu être arrêté en plus parce que il y avait soit des forces françaises lors de l'opération Amérilis d'évacuation des ressortissants, donc mi-avril 94, moment du génocide, ou effectivement lorsqu'il y a donc une opération sous mandat de l'ONU des Français à la fin juin, mi-juin 94. Et donc ce qu'on peut dire pour vraiment conclure cette première phase, c'est que la politique française, au lieu de démocratiser et de mettre de la politique au Rwanda, rajoute de l'ethnie, de l'ethnicisation. Et plus on ethnicise, plus on cible les minorités, ces minorités, dans un régime raciste, et bien ces minorités, fatalement, elles sont promises à l'extermination.
Un génocide ne se commet pas en un jour, c'est un processus. Est-ce que vous évitez d'utiliser le mot complicité sur la base de l'acte final de la consommation du génocide?
Dans cette période d'octobre 90 à décembre 93, la France est très présente et elle observe. Elle observe, en fait, ces violations systématiques des droits de l'homme, doublées, c'est-à-dire d'actes exceptionnels, systématiques contre les Tutsis, une diabolisation, un ciblage de ces populations. Et d'autre part, il n'y a pas du tout dans l'horizon, à la fois français et international, l'idée qu'un génocide puisse se reproduire.
Il y a le colonel René Gallini qui a lancé des alertes. D'ailleurs, vous le dites dans votre rapport, dès octobre 90, il met en garde les autorités françaises et évoque dans un télégramme diplomatique le risque d'élimination physique de 500 000 à 700 000 Tutsis du Rwanda. Et je vais vous citer, vous dites « Le danger est grand pour la France de passer pour complice de l'actuel gouvernement rwandais, donc le gouvernement génocidaire. » Vous dites que la France a ignoré tout ça. Est-ce que on peut dire qu'il a ignoré ou fermé les yeux?
C'est certain. On parle de responsabilité cognitive, c'est-à-dire l'impossibilité de comprendre la réalité rwandaise. Mais en même temps, effectivement, vous avez raison qu'il y a un acte intentionnel d'écarter tous ceux qui vont dire que cette politique va vers la catastrophe. C'est vrai. Et le colonel Galinier sera contraint de quitter son poste. Le général Varret, qui est son chef à la coopération militaire, est démis de ses fonctions. Les diplomates qui observent, les diplomates, les chercheurs, tout ça, ne sont pas écoutés. Donc, effectivement, il y a une volonté d'ignorer. Et là, il y a une intentionnalité. C'est très clair.
Est-ce que vous pensez que la France a péché par omission ou par action?
Les deux. C'est-à-dire qu'elle a omis toutes les alertes. Le Front patriotique rwandais, ce n'est pas un parti totalitaire, ethnique et ougandais. C'est un mouvement politique intérieur au Rwanda, formé par des Rwandais. Et la France a refusé cette réalité du Front patriotique rwandais.
Vincent Duclerc, président de la commission d'historiens, chargé de faire la lumière sur l'engagement de la France au Rwanda.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les artistes qui sont en chômage depuis une année à cause de la pandémie de Covid-19 appellent les autorités à déconfiner le secteur culturel. En observant les rassemblements politiques qui drainent de nombreuses foules de militants, les artistes estiment qu'ils peuvent eux aussi monter à nouveau sur scène. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
l'orchestre super Nkolombo Kadulider Johnson Philosophe ne baisse pas les bras. Il continue de faire la répétition pour garder la main et espérer être compétitif le jour où les musiciens reviendront sur scène. Voilà une année que toutes les scènes et les planches sont fermées au Congo à cause du Covid-19. Ce secteur est identifié par les autorités comme potentiellement favorable aux contaminations de masse. Mais les artistes, eux, se plaignent. Maruska Mukenge, la slameuse populaire du pays, explique comment ils vivent depuis là.
C'est une souffrance mentale de ne plus être capable d'exercer sa passion. Financièrement, c'est le chaos. Combien d'artistes sont repartis chez les parents, faute de ne plus pouvoir payer leurs factures? Est-ce que nos regrets vont suffire à arranger les choses? En tout cas, je ne sais pas.
Il y a une semaine, le pays a connu d'énormes rassemblements des militants politiques pendant les 15 jours de campagne électorale. Une attitude des autorités que ne comprend pas la cinéaste Lisbeth Mabiala, qui a dû annuler toutes ses activités de 2021.
Les associations politiques ont le droit de se réunir à plus de 30, 50, 100 personnes et qu'on interdit quand même aux artistes d'organiser des spectacles de plus de 50 personnes. C'est, permettez-moi le terme, du vrai foutage de gueule. Ça fait mal parce que moi, pour 2020, j'avais la production de ma série Duel Matambi. 2021, je voulais faire une tournée nationale pour montrer mes œuvres. C'est malheureux qu'un pays mette l'accent que sur la politique et laisse de côté les culturels.
De son côté, l'écrivain Yvon Mandaléwalé appelle les autorités à déconfiner le secteur culturel.
Nous avons été forcés au chômage jusque-là. Nous plaidons pour que le secteur culturel soit ouvert.
Une lecture que partage le chroniqueur de musique Arcel Diamana Sissabidim.
Regardons le spectacle que nous voyons des rassemblements politiques, ça crée de frustration et parfois on se demande est-ce que c'est mauvais de se lancer dans l'art au Congo et pourquoi le Congo jusqu'ici a toujours du mal à donner à l'art la place qu'il mérite. Et donc mon point de vue en tant que chroniqueur, d'une part aussi ça nous freine parce que nous pour exercer notre métier, s'il faut dire comme ça, l'artiste doit avoir de l'actualité, l'artiste doit être en mouvement. Mais si la seule actualité ce n'est que sortir des titres, écrire des livres et qu'il n'y a pas ce contact-là, ça réduit un peu le champ d'action de notre chronique que nous faisons au quotidien.
Le couvre-feu qui a été reconduit de 20 jours dans le pays commence à partir de 20h les samedis et dimanches, jour d'ambiance. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, comment réussir une meilleure réinsertion des ex-combattants de la crise anglophone? Le gouvernement réfléchit sur la question pendant que les jeunes repentis sont actuellement dans deux centres de désarmement et de démobilisation. Plusieurs opportunités leur sont présentées selon les modules de formation de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Le Cameroun compte trois centres régionaux de démobilisation, de désarmement et de réintégration des ex-combattants. Deux sont fonctionnels à Bamenda, dans la région du Sud-Ouest, et à Boya, dans le Sud-Ouest du pays. Plus d'une centaine d'ex-miliciens anglophones, communément appelés Amba Boys, y renouent avec la vie normale. Fayengo Francis, coordonnateur du Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration.
Ils vont être réintégrés après être formés, ils vont être installés, soit à leur compte, soit en groupe, mais nous préférons qu'ils fassent des pôles de développement autour des centres qui sont en train d'être construits. Ceux qui vont rapidement finir ces formations, nous allons tout faire pour les mettre sur le terrain.
Les premiers repentis de la crise anglophone ont intégré les centres de démobilisation le 28 janvier 2019. Ils ont exprimé leur ras-le-bol dans les rues de Bamenda et Bouya en février dernier à travers deux mouvements d'humeur. Parmi leurs revendications, les délais de séjour dans les centres, les meilleures conditions de vie, l'obtention d'une allocation pour subvenir à leurs besoins quotidiens et la délivrance des cartes nationales d'identité pour regagner la vie active. Une fois encore, Fayengo Francis, coordonnateur du Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration.
Sur le terrain, la paix n'est pas encore totale. Donc nous faisons attention parce que si on largue ces enfants vite, ils peuvent être des cibles. La réintégration du fait d'une région à une autre, vu le statut de ces ex-combattants, c'est des gens qui vont faire pratiquement la même chose, l'élevage, l'agriculture et peut-être d'autres métiers du jour, l'informatique, menuiserie.
Le Premier ministre Joseph Dion Gounté a ordonné le déblocage de la somme de 35 millions de francs CFA pour financer la réinsertion de 70 ex-combattants, parmi les plus anciens du centre de Boya. Un nouveau centre d'accueil multidisciplinaire de 1000 places a été construit et équipé pour les ex-combattants de Bamenda. Depuis le 20 mars dernier, les travaux de construction d'une infrastructure similaire ont été lancés à Tiko, une localité de la région du Sud-Ouest. Peter Ikome Mososo, maire de Tiko.
Je suis très, très content pour l'action du chef de l'État. Il a choisi la commune de Tiko. Il a les instructions strictes qu'il faut qu'ils utilisent les enfants de cette commune pour qu'ils travaillent dans le projet. Ça va nous aider à changer la vie économique.
Dans la région du Nord-Ouest, la réinsertion sociale des pensionnaires passe également par l'utilisation de cette main-d'œuvre dans l'exécution de certains marchés publics. Sixtus Ngapsa Nyunga, coordonnateur du Centre régional de désarmement de Bamenda.
Nous avons effectué plusieurs travaux de construction dans le centre et les ex-combattants qui ont eu de compétences en construction, en menuiserie, en électricité, nous ont aidés à le réaliser. Même dans le centre du BIR, c'est déjà terminé. À l'aéroport, beaucoup de nos ex-combattants ont participé aux constructions.
Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de la crise anglophone de Boko Haram a été créé en novembre 2019, Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 18 000 enfants non accompagnés sont détenus aux États-Unis depuis qu'ils ont traversé la frontière sud du pays ces derniers mois. Un défi de taille pour l'administration du président Joe Biden, qui veut marquer la rupture avec la politique de son prédécesseur Donald Trump en matière d'immigration. Reportage de Michelle Quinn, relaté par Nathalie Barge.
En ce qui concerne la gestion de la flambée de migrants à la frontière avec le Mexique, le président Joe Biden obtient un score faible dans les sondages. 57% des personnes interrogées dans une récente étude ABC News Ipsos déclarent désapprouver la façon dont il gère la situation. Monsieur Biden a arrêté la construction du mur frontalier engagé par l'ancien président Donald Trump et a adopté ce qu'il estime être des politiques d'immigration plus humaines. Mais les critiques affirment que ces changements de politique ont conduit des milliers de personnes à tenter le dangereux voyage vers le nord. Certains législateurs se sont rendus à la frontière pour voir la situation par eux-mêmes. Le sénateur républicain d'Alaska, Dan Sullivan.
Pour moi, c'était choquant. Je pense que le président et la vice-présidente doivent aller là-bas, voir ce que j'ai vu, voir ce que les autres membres du Congrès démocrate ou républicain voient arriver là-bas. Il y a des choses que nous pouvons faire immédiatement pour relever les défis. Mais pour le moment, ce sont des frontières ouvertes. C'est une crise humanitaire et sanitaire à laquelle nous devons faire face.
L'administration Biden affirme que la frontière n'est pas ouverte et que des personnes et des familles sont refoulées. L'afflux de migrants est cyclique, affirme-t-elle, estimant qu'une approche à plusieurs volets est nécessaire. Kate Bedingfield, directrice de communication de la Maison-Blanche.
Les flux migratoires ne sont pas le résultat des politiques d'une telle administration ou d'une autre. Ils résultent, par exemple, de catastrophes météorologiques dans la région. Ils sont le résultat de personnes fuyant la pauvreté et la violence.
Joe Biden a fait appel à la vice-présidente Kamala Harris pour diriger la réponse à l'afflux de jeunes migrants non accompagnés, la seule catégorie de demandeurs d'asile actuellement autorisée à présenter des demandes aux États-Unis. L'administration a mis en place 9 abris d'urgence pour héberger les enfants, avant de les envoyer dans un logement plus permanent. Selon l'administration Biden, plus de 80% de ces enfants ont un membre de leur famille aux États-Unis et pour environ 40%, cette personne est un parent.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.